Mola, archives sonores.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, les demoiselles aussi bien sûr, et bonsoir cher Jean, on me dit que nous avons 3 quarts d'heure, c'est très peu,
oui.
On a quand même beaucoup de choses à se dire, 3 quarts d'heure.
Bon, 3 quarts d'heure et 100 ans.
Ah, oh ça. On verra. La dernière fois que nous avons... D'abord, vous voyez que les Bordelais continuent à vous aimer. Enfin, je crois que vous avez beaucoup de lecteurs, beaucoup d'admirateurs, mais à Bordeaux, hein.
Merci.
La dernière fois que vous êtes venu, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était ici, et vous avez commencé votre propos par... Encore moi.
Oui.
Bon, ben, vous voyez que encore vous, ça ne décourage pas les.
Non. Qu'il y a quelque chose de changé, c'est que j'ai vieilli.
Ah.
Vous savez, c'est la fin du livre de Queneau que vous avez tous lu, Zazie dans le métro, où il lui arrive des choses terribles. Et elle rencontre des homosexuels, elle mène la vie parisienne, et on lui dit « Qu'est-ce que tu as fait à Paris ?» Et elle répond « J'ai vieilli. » Voilà.
Ben justement, on va peut-être pouvoir commencer, mais là, il va falloir faire 3 quarts d'heure, c'est bref. On va peut-être commencer tout de suite par une question... un peu ardos, quoi.
Oui. Hein, oui. N'hésitez pas.
Ouais. Donc le dernier livre s'appelait... comment s'appelait-il le dernier livre? Comment s'appelait-il?
Alors,
je suis sûr que vous ne vous en souvenez pas.
La création du monde, peut-être.
Non, bien après la création
alors,
du monde.
C'était
bien après. Alors. Le dernier, l'avant-dernier, là. C'était bien.
C'était
bien. Ah, merci madame.
Pourtant,
c'était
je vous promets
bien.
Que c'est moi ouais. qui les écris.
C'est...
Vous avez remarqué que les hommes politiques, quelquefois, quand on les entend à la radio, on voit tout de suite qu'ils n'ont pas écrit le livre et quelquefois, on se demande s'ils l'ont lu.
Écoutez, on va pas faire trop de digressions, etc.
Non, pardon.
Mais j'ai interrogé un jour Chaban Delmas, qui avait écrit un livre sur Montaigne, sur je ne sais quoi, et je lui cite un passage de son livre et Chaban me dit... J'ai écrit ça. Voilà. Bon, les hommes politiques, ils sont tombés. Donc, c'était bien. C'était bien. C'est un livre qui avait une espèce de couleur un peu testamentaire.
Oui, c'est vrai.
Hein
oui.
Hein testamentaire. Et
j'étais plus vieux à cette époque-là.
Voilà,
c'était il y a 4 ans.
Et voilà. Et alors, c'était bien. Qu'ai-je donc fait? Tous ces titres se tournent vers la rétrospection, vers le passé, vers la récapitulation d'une vie, etc. Mais déjà, en 1966. Vous aviez écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci ».
Oui, c'est vrai.
Alors, est-ce que vous passez votre temps à faire vos adieux? Et qu'il existe une littérature? Ça, après tout, ça peut être un genre, n'est-ce pas? Ça peut être un genre littéraire qui est celui de l'adieu.
Voilà. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Vous mettez dans le mille tout de suite. On m'a fait 2 reproches. Le premier, c'est d'écrire toujours le même livre. Et ma réponse est qu'un écrivain écrit forcément toujours le même livre. Vient de paraître dans le bouquin des textes de Mauriac. Et j'ai vu avec bonheur que Mauriac dit quelque part « C'est une malédiction. Dès que je me mets à écrire, c'est du Mauriac. » Évidemment, le propre d'un écrivain, c'est qu'il ne peut écrire que ce qu'il est. Et le deuxième reproche qu'on m'a fait souvent, c'est « Vous êtes comme la Castafiore, vous faites des adieux successifs. » C'est vrai qu'en 1966, j'avais écrit un certain nombre de livres, bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois qu'on a peu de temps, qui n'avaient pas eu énormément de succès. J'avais contre moi un journal important qui était le Figaro, où mon nom n'était pas imprimé. on ne parlait jamais d'un de mes livres dans le Figaro et on refusait la publicité payante du Figaro. Vous savez pourquoi j'ai raconté ça 20 fois ? Parce que j'avais écrit un article sur le Figaro, sur le directeur du Figaro qui s'appelait Brisson, qui était un très grand directeur du Figaro, beaucoup plus grand que je n'ai jamais été, mais qui malheureusement écrivait des romans. Ça se passe, ça, quelquefois. Et j'avais terminé l'article en disant que le livre n'était pas fameux, et j'avais terminé en disant qu'il y a tout de même une justice, on ne peut pas à la fois être directeur du Figaro et avoir du talent. Et donc, on ne parlait pas moins du Figaro. C'était tout à fait sincère. Au revoir et merci signifiait un adieu à la littérature. Et puis, il se trouve qu'à cette époque-là, je m'occupais à l'UNESCO de sciences humaines, d'archéologie, de philologie, de philosophie. J'organisais des congrès, des débats. Et je me suis dit, ça ferait un merveilleux roman. Et j'ai écrit ce roman. Mon éditeur Julliard était mort. J'ai été le porter chez Grasset, qui me réclamait un livre, et les gens de Grasset m'ont dit « Les premiers livres étaient pas fameux, mais ils étaient gais, amusants, celui-là est sinistre, il a 800 pages, il est mortel d'ennui. » Alors furieux, je l'ai repris, je l'ai apporté chez Gallimard, et il a fait 300 000 exemplaires, c'était la gloire de l'Empire. Donc voilà un premier adieu. Et puis, il y a quelques années, c'était bien, je pensais que c'était bien, en effet, un adieu à la littérature, un livre testament. Celui-là n'est pas un livre testament, je dirais plutôt que c'est un livre confession. Il y a des choses que j'avais besoin de dire, qu'il fallait vraiment que je dise, comme on va sur le divan d'un psychanalyste ou comme on va dans un confessionnal. Et c'est ce livre-là que j'ai écrit avec ce besoin de confession et aussi... Un autre problème, on m'a souvent dit, tu parles beaucoup de Dieu, il faudrait savoir un jour ou l'autre si tu y crois ou si tu n'y crois pas. Et c'est pour répondre, bonjour Philippine, bonjour Jean-Pierre, et c'est pour
bonjour. Bonjour Philippine, c'est quand tu commences quand on mange des...
J'ai le nom sur le bout des lèvres. Ouais.
Comment? Les amandes, oui, comment
je perds toujours.
Les amandes, c'est...
Je perds toujours, évidemment.
Philippine, ça suffit.
Donc c'était
pour répondre à cette question.
De l'Empire.
Non. J'ai écrit ce livre pour répondre à cette question, et naturellement, la réponse est naturellement ambiguë.
Alors, oui. Un livre confession. Bien que ce ne soit pas trop votre style, la confidence personnelle et intime. Et quand vous dites un livre confession, il y a en effet, si je l'ai bien lu, un chapitre ou un passage dans lequel vous révélez quelque chose que vous n'aviez jamais dit auparavant, n'est-ce pas ? Mais pour le reste, moi je dirais pas un livre confession, je dirais plutôt un livre qui récapitule l'ensemble d'une vie, qui récapitule l'ensemble d'une œuvre. J'ai lu les critiques qui ont été écrites sur le livre, n'est-ce pas ? Quand vous commencez à parler, c'est merveilleux, tout le passage Saint-Fargeau, on se dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de réécrire
Et la différence peut-être avec Au plaisir de Dieu était évidemment... Bon, beaucoup de gens ont vu Au plaisir de Dieu, beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens l'ont vu à la télévision. C'était une époque bénie, il y avait deux chaînes de télévision seulement. Et je crois que sur une des deux chaînes, Au plaisir de Dieu a fait 76% d'écoute. Évidemment, c'était un rêve à l'époque. Et dans Au plaisir de Dieu, c'était l'illustration de cette formule du roman que je donne dans Qu'ai-je donc fait ? Le roman consiste à inventer avec des souvenirs. Et je me rappelle que je signais Au plaisir de Dieu dans une manifestation quelconque, et il y a une dame qui est venue et qui a dit « J'ai bien connu votre famille, mais je n'ai pas retrouvé tous les personnages de votre famille. Et j'ai dit à cette dame, je dois vous dire que ce livre est plein de souvenirs, mais que beaucoup de choses sont inventées. Et elle m'a fait cette réponse que j'avais, qui m'avait paru superbe. Elle m'a dit « inventer ». Et moi qui croyais que vous aviez tant de talent. Alors, évidemment, dans ce livre-ci, rien n'est inventé, c'est la vérité vraie. Et peut-être pour expliquer certains détails de mon existence, j'ai été obligé de revenir à Saint-Fargeau, c'est-à-dire à Plessis-les-Vaudreuil, dans « Au plaisir de Dieu ». Et j'ai donné quelques pistes, on pourrait en trouver beaucoup d'autres, sur la façon de vivre à Saint-Fargeau, qui a l'air d'appartenir aujourd'hui à un autre monde, sur la façon de parler, sur la façon de se tenir, sur la façon de manger. Manger, c'était un verbe qu'on ne pouvait utiliser qu'avec un complément d'objet direct. On pouvait manger du chocolat, on pouvait manger du bœuf, on pouvait manger des spaghettis. On ne pouvait pas manger tout court. Il était exclu de dire à quelle heure mange-t-on. C'est impossible, impossible. À quelle heure déjeune-t-on, à quelle heure dîne-t-on. Et des choses comme ça. On pouvait dire ce soir ou ce matin. On ne pouvait pas dire ce midi. On pouvait, tous ces tics de langage. Et encore, je n'ai pas pu rendre quelque chose dont il reste peut-être même quelque chose dans ma façon de parler, qui était l'intonation. Et j'ai retrouvé cette intonation de ma famille chez quelqu'un d'un peu inattendu, chez Marguerite Coursenard. Marguerite Coursenard avait une façon de parler, on voyait tout de suite qu'elle avait été élevée dans un collège religieux. Elle avait une diction un tout petit peu recherchée, peut-être même un peu affectée.
Un peu précieuse,
vous
oui,
savez, affectée, ces manières sont... c'est comme la syphilis, ça ne passe jamais tout à fait. Il en reste toujours quelque chose, voilà. Et alors, ce qui était intéressant, c'était que je passais... à cette époque-là, du milieu de Saint-Fargeau, qui était un milieu, disons le mot, franchement réactionnaire, monarchiste, ultra-conservateur, à l'école normale où tous mes amis étaient trotskistes. Et ça, c'était amusant, de la même façon, j'en ai déjà dit un mot, que je suis passé presque directement de la liste noire du Figaro au poste de directeur général. Ça, c'était quand même épatant. Alors, j'avais d'ailleurs réuni le personnel du Figaro et je leur avais dit, inutile de me rappeler que j'ai écrit qu'on ne peut pas être directeur du Figaro et avoir du talent. Je m'en souviens très bien.
Oui, alors, sur le... ils sont très beaux les passages sur Saint-Fargeau, même si on a lu Au plaisir de Dieu. Ils sont très beaux et très intéressants. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, tout ce que vous dites sur par exemple, la façon de s'exprimer, le langage. Je ne suis pas sûr que vous me fassiez. Qui est pas un peu d'anachronisme là.
Je
vous taquine.
Non, hein, non, c'est possible. Ouais.
Parce que ce midi, c'est apparu très récemment, ça n'existait pas, personne ne disait ce midi il y a quelques années. En effet, on ne mangeait pas, n'est-ce pas?
On ne disait pas bonne continuation.
On ne disait pas bonne continuation.
On ne disait pas pas de soucis.
Ouais, ouais. Non, mais ça, je crois que ce sont des phénomènes langagiers qui sont apparus plus tard. Tardivement.
Oui, c'est possible.
Enfin, très bien.
C'est vrai qu'on ne parlait pas non plus de télé, parce qu'il n'y avait pas de télévision, d'abord.
Mais, alors, en revanche, ce qui est intéressant à Saint-Fargeau et dans cette famille, c'est que il y a deux clans. Il y a deux clans, c'est-à-dire deux clans, ça veut dire deux histoires.
Alors oui, c'est évidemment intéressant. Alors, je voulais dire aussi que souvent, on me dit « tu parles de toi ». Ma mère m'avait laissé trois préceptes. J'ai souvent raconté, le premier précepte me coûte cher aujourd'hui, c'est « toute lettre mérite réponse ». Et en ce moment, je dois recevoir entre 100 et 150 lettres par jour, c'est vraiment difficile. La seconde précepte de ma mère, je crains de ne pas l'avoir beaucoup suivi, c'était « ne te fais pas remarquer ». qu'est-ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Et le troisième, c'était « Ne parle pas de toi ». Mais alors, en vérité, vous savez, quand je parle de moi, c'est aussi pour parler des autres. C'est vraiment cette espèce de passage dans les milieux différents, cette espèce de paradoxe de la vie qui me paraît si frappant. Je n'en parle pas dans ce livre. Je parle dans ce livre de passage dans les milieux différents. Mais quand je pense à des gens venus, par exemple, du Maroc ou de pays arabes et qui arrivent en France, qui passent des concours en France, je me dis, mais quels extraordinaires trajets, comme c'est extraordinaire de passer dans les milieux différents, comme c'est extraordinaire de voir des gens qui pensent différemment. J'ai compris très vite que les gens ne pensaient pas la même chose. Et alors, il y avait en effet deux clans.
Avant qu'on revienne aux deux clans, est-ce que quand vous dites ça, quand vous l'écrivez, si je parle de moi, je parle de vous, n'est-ce pas ? Et vous rappelez, vous ne le citez pas, mais la phrase de Victor Hugo,
« Insensé
qui croit que je ne suis pas toi ».
Voilà, exactement. Insensé qui croit que je ne suis pas toi.
Insensé qui croit que je ne suis pas toi. Pas toi. Est-ce que c'est pas ça la littérature ?
Mais oui, bien sûr, c'est ça la littérature. La littérature, il y a beaucoup de demeures dans la maison du père. Il y a beaucoup de définitions de la littérature. Une définition que je viens de donner, c'est la littérature consiste à inventer avec des souvenirs. Il y en a une autre qui est très célèbre, qui est la littérature consiste à se souvenir des tempêtes dans des moments de calme. Qu'est-ce qu'il faut pour une littérature ? C'est avoir connu les tempêtes et avoir du calme. Il faut évidemment du calme pour écrire. Une autre définition que j'ai beaucoup aimée, c'est du chagrin dominé par la grammaire.
C'est une admirable définition, ça.
Et alors, vous parlez des deux clans de ma famille.
Oui,
S'il n'y en avait que deux, naturellement, il y avait du côté de ma mère.
Il y avait deux traditions.
Ouais, il y avait deux traditions. Du côté de ma mère, la famille conservatrice, ultra-catholique et monarchiste. Du côté de mon père, une tradition ultra-républicaine et, disons, plus ou moins à gauche. Mais c'est dans la famille de ma mère, et pas dans la famille de mon père, que naît un personnage extraordinaire dont j'ai beaucoup parlé, qui s'appelait le Pelletier de Saint-Fargeau. Et le Pelletier de Saint-Fargeau était député de la noblesse à la Constituante et réélu à la Convention nationale et devient un ami de Robespierre, dépasse Robespierre sur la gauche, se rapproche des babouvistes et vote la mort du roi. Et le soir de la mort du roi, le 21 janvier 1993, il est assassiné au palais royal par un garde du roi qui entre dans le café, le voit. Est-ce que c'était prémédité ou pas, on ne sait pas. Il s'appelait Paris et il lui dit « Est-ce que tu es le Pelletier de Saint-Fargeau ?» Et mon grand-père répond « Oui ». Et le Pelletier de Saint-Fargeau et Paris lui passe son épée dans le corps. Et les deux grandes figures de la Révolution, c'était Marat, dans sa baignoire, tué par Charlotte Corday, et mon grand-père, le Pelletier de Saint-Fargeau, tué par Paris. Et vous savez que le fils de Marchais n'était pas communiste, et la fille de le Pelletier de Saint-Fargeau a été prise par Robespierre, elle avait 7 ans ou 9 ans, elle s'appelait Suzanne, c'est mon arrière-grand-mère, et elle a été prise par Robespierre dans ses bras, elle a été présentée à la Convention nationale, et Robespierre a dit « Enfant, voici tes pères, messieurs, citoyens, voici votre fille ». Et donc, elle était pupille de la nation, et elle est redevenue ultra-monarchiste, elle a racheté tous les souvenirs de son père, et il y avait un fameux tableau de David, régicide lui aussi, qui avait peint le Pelletier de Saint-Fargeau sur son lit de mort, qui savait que Suzanne Lepelletier rachetait les souvenirs de son père pour les détruire, qu'il a vendu 100 000 francs or de l'époque, ce qui était une sacrée somme, et il lui a fait promettre de ne pas détruire le tableau qui est muré quelque part, selon la légende, dans les murailles de Saint-Farge.
On ne l'a jamais retrouvé.
On l'a jamais retrouvé.
Et alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, en effet, il s'agit quand même de deux traditions différentes, n'est-ce pas ? Mais votre grand-mère, extrêmement monarchiste, qui portait en permanence le deuil de Louis XVI. Elle allait prier dans la chapelle de Saint-Fargeau, où il y avait le tombeau
du régicide. C'est évidemment grisant, tout ça. Et alors, mon père était, ça l'excitait beaucoup, et mon père essayait toujours de parler de Lepelletier de Saint-Fargeau. Mais on ne parlait pas de Lepelletier de Saint-Fargeau à Saint-Fargeau. C'était comme une ombre qu'on essayait de repousser. Et alors, tout ça était très excitant, et en même temps, mon père, dans ce milieu, était ambassadeur, et il était ambassadeur du Front populaire, et il avait été nommé ambassadeur par Léon Blum. Alors vous voyez, tout ça était très agitant, et quand j'allais à l'école normale, Léon Blum, qui apparaissait à mon père comme un ami, à ma famille de ma mère comme un horrible révolutionnaire, apparaissait à mes amis trotskistes de l'école normale comme l'incarnation même de la bourgeoisie. Vous connaissez les vers d'Aragon sur Léon Blum, feu sur Léon Blum, feu sur les ours savants de la social-démocratie. Voilà. Alors j'ai compris très vite que le monde était différent. Et j'ai compris très vite que on pouvait penser des choses différentes.
Et justement, quand vous étiez à l'école normale, supérieure, avec des amis trotskistes, venant d'un milieu aristocratique, et où il y avait les régicides, les légitimistes, etc. Est-ce que vous aviez le sentiment vous-même d'être divisé, partagé, embarrassé, ou est-ce que vous étiez à l'aise avec tout ça ?
Alors je vais vous dire tout de suite, je suis Gémeaux. Je n'y crois pas, j'ai inutile de vous dire, je n'y crois pas, mais tout de même, je suis Gémeaux. Et quelquefois on me dit, ah tu es double, si je n'étais que double, ce serait un rêve, je suis quadruple et sextuple. Et je sentais très vite que les choses étaient compliquées. Et j'ai senti très vite aussi que je m'en arrangeais assez bien. Voilà. Je passe souvent pour un écrivain catholique. En réalité, je suis agnostique. Alors des gens me disent « Ah, tu es athée ». Évidemment, je ne suis pas athée. Être agnostique, ça ne veut pas dire athée. Agnostique, ça veut dire qu'on ne sait pas. Et de la même façon, on m'a souvent dit « Tu es un écrivain du bonheur ». Et j'ai compris très vite, vous savez, c'était Raymond Aron, que j'ai beaucoup aimé, qui disait à Giscard, vous n'avez pas le sens du tragique. Et j'ai eu très vite le sens du tragique. J'ai eu le sens du tragique parce que, en dehors de ce cadre de Saint-Fargeau, que mes lecteurs commencent à connaître, mon père était diplomate et il était arrivé en Allemagne, il était arrivé à Munich, en 1925, Hitler était en prison. Il avait raté son putsch, il était en prison. Et il est parti en 1933. Et mon père avait sauvé beaucoup de juifs allemands en leur permettant de quitter l'Allemagne. Et à la fin de son séjour en Allemagne, tous les matins au petit déjeuner, les nazis étaient au pouvoir, nous recevions une photo de mon père avec les yeux crevés. Et alors, j'ai compris très vite que le monde était tragique. Et donc, il y a eu à la fois ce sentiment d'habiter un monde tragique et ce bonheur de vivre que j'ai toujours ressenti.
Ça, c'est le, peut-être que c'est le nœud de même de votre œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une expression que vous reprenez, que vous avez repris maintes fois, la vie est une fête en larmes, n'est-ce pas ?
Oui, la vie est une fête en larmes, c'est ça.
Donc il y a les deux choses, il y a les deux choses, là.
Il y a le poème si beau d'Aragon, que Philippine y connaît, qui est, et qui dit assez bien ce que je voulais dire. S'il faut aller très vite, on m'accuse quelquefois d'aimer les citations. C'est une marque de plus de ma délicieuse modestie. C'est que je trouve que les autres ont quelquefois dit les choses mieux que je le disais, que je le dis moi-même. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit obscure et noire aux déchirures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout si ce n'est le passant. C'est une chose, au fond, que je ne peux comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux, comme si ce n'était pas assez merveilleux que le ciel, à un moment, nous ait paru si tendre. Malgré tout, je dirais que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
Bon, on applaudit Aragon.
Oui, je sais. Vous voulez me rappeler à la modestie. Oui, d'accord. On applaudit Aragon.
Mais on applaudit Dormesson.
J'ai énormément admiré et aimé Aragon.
Ah, oui. Oui, alors ça, c'est une chose qui m'étonne. Je suis terrifié par le. J'ai les yeux fixés sur la montre. Jamais on ne m'a fait un truc pareil. Moins le quart.
Il faut penser aux gens. Qui est-ce qui veut faire
signer? On va nous couper la tête, Jean, dans 10 minutes.
Qui veut faire signer un livre? Levez la main.
Ah bah oui, voilà.
Oui, il y en a encore quelques-uns.
Il y en a quelques-uns. Juste, à un moment, vous écrivez dans le livre, je n'aurais été ni Gide, ni Aragon, ni Toulé.
Oui. C'est voilà. Oui.
C'est quand même trois écrivains très différents, dont la notoriété est différente, la stature et tout ça, et qui pour moi sont surtout tous les, d'ailleurs, tout simplement surtout tous les, sont de très très grands écrivains, et vous les mettez sur le même plan.
Alors, je vais vous dire, allons très vite, puisqu'il nous reste que quelques minutes. Quand je crois que j'ai répété ça, vous le savez, quand j'étais jeune, je ne voulais rien faire. Je travaillais très bien. Je n'ai jamais été à l'école. Mais je travaillais très bien parce que j'étais toujours premier, puisque j'étais seul avec ma mère. Alors, j'étais toujours premier. Et quand je suis arrivé en Hippocagne, stupeur, le petit génie a été dernier. Alors là, il a fallu, je ne sais pas s'il y a ici des élèves en Hippocagne, il faut travailler, Jean-Pierre le sait, et c'est difficile, et il faut regrimper comme ça, petit à petit, tous les échelons. Et très vite, au fond, je me suis dit, très vite, j'ai su que ce que j'aimais, c'était les livres. J'ai aimé les livres, évidemment. Et j'ai aimé lire, et l'idée d'écrire ne m'était pas venue à l'esprit. À aucun moment, quand j'avais 12 ans, 15 ans, 16 ans, l'idée d'écrire ne m'était venue. Je n'ai écrit aucun poème à 15 ans, aucune tragédie classique comme Monterland à 16 ans, aucun roman comme Sagan à 17 ans. Et tout à coup, à 30 ans, je me suis mis à écrire un livre sous les ricanements de mes camarades. C'était pour plaire d'ailleurs à une fille, naturellement, ça lui était complètement égal. Elle préférait de loin les joueurs de tennis, quelle idée. Et donc, à ce moment-là, quand je me suis mis à écrire, je me suis dit, si on écrit, il faut être Montaigne ou Chateaubriand. Voilà. Et donc, j'étais très triste. J'ai toujours été très triste parce que je savais que je ne serais pas Montaigne et Chateaubriand. Alors, j'ai diminué mes ambitions. Je me suis dit, peut-être je pourrais devenir quelque chose comme Gide, comme Aragon. Et puis, j'ai très vite compris que je ne deviendrais pas Aragon, ni même Gide, ni Toulet. Et alors, on me dit, ah, c'est de la fausse modestie. Mais non, c'est de la vraie modestie. Simplement, je prends mes références un peu haut et je me dis, comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire dans cette lignée merveilleuse de la littérature française ? Peut-être en entrant dans le dictionnaire qu'a fait Jean-Pierre de Beaumarchais. La seule voie que je vois encore qui me soit ouverte.
Oui. Et vous jouez beaucoup sur ce registre, la modestie, fausse modestie, etc. Bon.
Oui, bien sûr, si vous voulez me faire dire que je suis cabotin, oui.
Tout le monde. Personne ne l'ignore. Ce qui m'étonne plus, c'est ni Gide, ni Aragon, ni Toulet, mais c'est votre désir de laisser une trace. Et vous le dites quand même. Vous voulez laisser une trace dans la littérature. Et en même temps, alors ça c'est une question moins insignifiante ou superficielle qu'elle pourrait en avoir l'air. Et en même temps, vous dites je suis agnostique. Et vous dites dans votre livre que bon, il faut donner sa chance à Dieu, mais enfin. Et donc vous êtes agnostique, vous n'êtes pas certain du tout qu'il y ait une vie après la mort, et vous voulez laisser une trace, et ça vous fera une belle jambe.
Alors je réponds tout de suite aux deux questions. Un, le public, les lecteurs, et deuxièmement, Dieu. Alors, le public et les lecteurs. Depuis la gloire de l'Empire, les lecteurs ne m'ont jamais quitté. Et j'en suis très reconnaissant. Je dois vous dire que je n'ai jamais écrit aucun livre en pensant à mes lecteurs. Si vous pensez à vos lecteurs en écrivant un livre, vous êtes perdu. Parce que vous risquez de faire un best-seller, c'est-à-dire un navet. Il ne faut jamais penser au lecteur. Il ne faut pas se dire « qu'est-ce que mes lecteurs attendent de moi ?» Et je ne l'ai jamais fait. Que mes lecteurs m'aient suivi, c'est un bonheur pour moi, c'est vrai. Mais est-ce que je crois qu'un écrivain est sauvé parce qu'il a beaucoup de lecteurs ? Évidemment, non. Il y a un passage merveilleux de Flaubert à Maxime Ducamp, où il dit Maxime Ducamp et Flaubert avaient des relations, étaient intimes, ils avaient été ensemble, ils avaient fait un voyage en Égypte célèbre ensemble, ils ont écrit ensemble un livre qui s'appelait
Ils sont bien amusés en Égypte.
Flaubert avait envoyé Madame Bovary à Maxime Ducamp. Et Maxime Ducamp lui avait écrit une lettre où il avait dit « Ton livre est merveilleux, il y a quelques longueurs, c'était pas tant, là. Il y a quelques longueurs, mais à la Revue de Paris, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Elles, c'est elles déjà le rewriting. Elles vont couper les longueurs dans ton texte. » Et sur l'enveloppe de la lettre, on a retrouvé le Flaubert avait écrit « gigantesque ». Gigantesque. Et Flaubert disait « Je n'ai qu'un seul juge, c'est moi-même. Et c'est beaucoup plus difficile de me plaire que de plaire aux autres. » Je ne suis pas entièrement de son avis. Je pense naturellement que c'est à soi-même qu'il faut plaire. Mais en fin de compte, qui est juge des livres ? Naturellement, ce ne sont pas les académies ou les critiques, c'est le public. Mais ce n'est pas le public d'aujourd'hui, c'est évidemment le public de demain. Et avoir beaucoup de lecteurs de son vivant n'a aucune signification. Ce qu'il faut espérer pour un écrivain, la seule chose que puisse espérer un écrivain, c'est d'avoir un public de quelques centaines de personnes 20 ans ou 30 ans après sa mort. Et évidemment, l'exemple le plus éclatant, c'est Stendhal. Vous savez que aucun livre de Stendhal n'a eu du succès. Le Rouge et Noir a eu très peu de succès. La Chartreuse de Parme a été assouvie assez mal. Il y a juste eu un célèbre article de Balzac qui, évidemment, a dû remplir de bonheur Stendhal, où Balzac dit « Monsieur Bell », c'était le nom de Stendhal, « Monsieur Bell vient de nous donner un livre où le sublime éclate de chapitre en chapitre. » Ça, c'est merveilleux. Mais n'empêche qu'à la mort de Stendhal, il y avait 3 personnes. 1 million de personnes pour Victor Hugo, 50 000 personnes pour Sartre, 3 personnes pour Stendhal. Mais évidemment, Stendhal a pris sa revanche. Il disait, j'écris pour 1935. Voilà pour le public. Alors, tout ça, c'est évidemment très délicieux d'avoir un public, d'être suivi par un public. Il y a une formule de Sioran que j'aime beaucoup. J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. Mais évidemment, le succès n'a pas beaucoup de sens. Vers quoi allons-nous? Mais nous allons tous vers quelque chose qui est évident, dont on ne parle jamais, mais qui est la mort. Je dis souvent à un public, en sortant d'ici, vous serez plus près de la mort qu'en entrant. Et évidemment, c'est moi qui serai le plus proche, parce que probablement, je suis ici probablement le plus vieux. Vous savez, je n'ai pas été le plus brillant de ma génération, mais j'ai longtemps été le plus jeune. Alors, j'ai été le plus jeune, j'ai été assez jeune à l'école normale, assez jeune agrégé, assez jeune à l'UNESCO, assez jeune à l'Académie. Et puis, tout à coup, on est le plus vieux. L'autre jour, j'étais à une réunion de l'UNESCO des anciens directeurs. On était une quinzaine, là, et il y a eu un problème un peu difficile. Et quelqu'un a dit, c'est un problème difficile, il faudra en parler à notre doyen. Alors, je lève les yeux au ciel, c'était moi. Ça m'a fait un choc. Donc, nous allons vers quelque chose qui est l'éternité. Et l'éternité m'a toujours intéressé. Je me rappelle que quand j'étais... C'est pas parce que je vieillis que je m'occupe de la mort. Ça m'intéressait toujours. Je me rappelle quand j'étais jeune, on me donnait des définitions stupides de l'éternité. On me disait l'éternité, c'est il faut imaginer un oiseau qui passerait, un oiseau géant qui passerait et qui effleurerait le monde de son aile. Quand le monde serait usé par l'aile de l'oiseau, c'est l'éternité. C'est tout à fait stupide, n'est-ce pas? L'éternité n'est évidemment pas un temps très long. L'éternité, c'est l'absence de temps. Et l'éternité, c'est quelque chose de très simple que nous connaîtrons tous, puisque nous serons morts et que nous serons entrés dans l'éternité. Croyants ou non croyants, nous serons dans l'éternité. Tout le problème est de savoir si cette éternité a un sens ou n'en a pas. Et c'est un problème qui a intéressé des milliers de gens et des milliers de gens. Pascal ne parle de rien d'autre. Spinoza parle essentiellement de ça. Et nous savons que je suis entouré de gens qui savent. D'ailleurs, je suis toujours surpris que les gens savent. Peggy, Claudel, Bernanos savent que Dieu existe. Sartre sait très bien que Dieu n'existe pas. Il considère même les gens qui croient que Dieu existe comme des imbéciles. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Mais moi, je suis comme l'immense majorité des gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas et nous ne pouvons pas savoir. Nous ne pouvons pas savoir parce que nous appartenons à quelque chose qui m'a toujours fasciné, qui est le temps, qui est quelque chose de tellement compliqué, de tellement stupéfiant comme mécanisme, avec un avenir qui est où? Qui est nulle part, qui est dans notre tête, nulle part ailleurs. Un passé qui est où? mais qui est dans notre tête, nulle part ailleurs que dans notre tête. Et cet avenir se change sans cesse en passé, et nous vivons constamment dans un éternel présent. C'est ce qu'il y a de si beau dans ce livre neuf des Confessions de Saint-Augustin, qui a été évidemment un choc quand je l'ai lu, où il y a cette description du temps, où nous vivons, même quand nous pensons à l'avenir, même quand nous parlons du passé, nous sommes toujours dans le présent. Même le passé est dans le présent, même l'avenir est dans le présent. Ils ne peuvent être nulle part ailleurs. Et ce passé et ce présent sont deux blocs qui ne laissent aucune place au présent. Vous ne pouvez jamais dire « je suis dans le présent ». Si vous dites « je suis dans le présent », ou bien c'est de l'avenir, ou bien c'est déjà du passé. Nous vivons constamment dans un présent qui n'existe pas. Alors ça, c'est vraiment un mécanisme stupéfiant. C'est quelque chose, probablement, comme l'eau pour les poissons. Les poissons ne peuvent pas imaginer qu'il y ait autre chose que l'eau. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que le temps ? Oui, bien sûr, il y a autre chose que le temps, puisqu'il y a la mort. Et le problème n'est pas de savoir s'il y a de l'éternité ou pas. Le problème est de savoir si cette éternité est vide ou s'il est permis d'espérer quelque chose d'autre que le temps. Eh bien, on ne peut rien en dire. Tout ce qu'on peut en dire, c'est espérer. Et évidemment, j'espère qu'il y a autre chose que ce monde. Parce que s'il n'y a rien d'autre que ce monde est vraiment une farce sinistre. Moi qui me suis tellement amusé de cette vie, qui ai tellement aimé cette vie, elle n'a évidemment absolument aucun sens s'il n'y a pas autre chose. Je crois qu'il y a dans le livre une formule que j'aime bien, c'est « la mort perd beaucoup de son charme si Dieu n'existe pas ». Voilà. Et tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'il existe, et j'espère qu'il existe, parce que s'il n'y a rien d'autre que ce monde, vous savez, quel que ce soit un régime de droite ou un régime de gauche, que ce soit une philosophie ou une autre, c'est quelque chose d'absolument dérisoire et d'absurde, et qui n'a absolument aucun sens. Alors espérons qu'il y a quelque chose d'autre.
Ce livre est composé de fragments de dimensions différentes. Il y en a quelques-uns très courts. Vous venez de parler du temps, page 285, il y a la marche du temps, ça fait 7 lignes.
Oui.
Voilà.
Et ça tend vers le silence,
oui,
évidemment.
Oui, ça tend vers le silence. Et j'aime beaucoup la page 327 où vous racontez qu'un monsieur qui s'appelle Pierre Simon de la Place présenta un jour son tableau de l'univers, s'il vous plaît, à l'empereur Napoléon. Et que Napoléon aurait examiné ça, etc. Mais il a dit Et Dieu dans ce système, un peu comme Chancel, et Dieu dans tout ça. Voilà. Et Dieu dans le système de l'astronome. Et l'astronome a répondu, sire, Dieu est une hypothèse dont j'ai cru pouvoir me passer. Pas vous. Pas vous.
Vous savez, ma réponse est ambiguë.
Ah.
À quoi est-ce que je crois ? Je crois à peu près exclusivement à la science. Dans le temps, dans le monde où nous vivons, je crois à la science. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que la science puisse répondre à toutes les questions. Il me semble que la science est une asymptote. Elle tend vers l'explication totale du monde. Un enfant de 7 ans en sait beaucoup plus aujourd'hui qu'Aristote. Aristote ne savait pas, quelle était l'histoire de l'humanité, ne connaissait pas l'évolution. Un enfant de 7 ans sait beaucoup plus de choses sur l'univers, sur le cosmos, sur les 13 milliards d'années de l'univers qu'Aristote ou que Spinoza. Mais il est quand même douteux que la science puisse arriver à la vérité. Il y a deux catégories de gens qui sont insupportables. C'est ceux qui pensent qu'on peut arriver à la vérité et à la justice. Nous n'arriverons jamais à la vérité et à la justice. Et il y a une autre catégorie de gens qui sont insupportables, qui disent, puisque nous n'arrivons pas à la vérité et à la justice, inutile de les poursuivre. Eh bien, il faut que nous poursuivions la vérité et la justice en sachant que nous ne les atteindrons jamais. Alors, la science, c'est cette poursuite de la vérité, mais elle n'y arrivera jamais, mais ce n'est pas une raison pour la rejeter. Dans ce temps, dans ce monde, je crois à une chose et à une seule, c'est à la science. Je ne crois pas au créationnisme américain qui nie l'évolution. Je n'y crois pas. Et je crois à cette science, mais je ne pense pas que la science puisse jamais dire « nous arriverons à tout expliquer ». Il y a quelque chose qui s'appelle le mur de Planck, qui est évidemment une chose formidable. Vous savez qu'on arrive de plus en plus près du Big Bang créateur de l'univers, mais qu'il y a une limite de quelques millièmes de seconde qu'il est impossible de franchir. Eh bien, ça, c'est comme une image du savoir. Le savoir peut aller aussi loin que possible, mais il ne peut pas tout expliquer. Il restera toujours quelque chose. Voilà.
Jean, vous avez fait une réponse extrêmement biaisée. Complètement. Je vous dis, est-ce que Dieu est une hypothèse dont vous pouvez vous passer ?
Vous savez, je reçois beaucoup de lettres et il y a une dame qui m'a écrit une lettre qui m'avait beaucoup frappée. Il y a beaucoup de lettres qui m'ont frappée. Je pourrais en parler pendant des heures des lettres que je reçois. Et elle m'a dit... on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. C'est assez bien. Si vous me dites est-ce que vous croyez à Dieu, la formule est d'ailleurs très frappante. La formule de croire. Si vous croyez que mon avion va partir à 8h20, il faut pas le croire, il faut en être sûr. Et nous croyons à Dieu, c'est étrange comme formule. Maintenant, si vous me dites qu'il faut répondre par oui ou par non, oh, c'est très très difficile.
Non, est-ce que c'est une hypothèse ? Est-ce que c'est une hypothèse ?
C'est une hypothèse. Dieu est une hypothèse.
Voilà.
Dieu est une hypothèse. Et c'est. Il y a deux formules.
L'avion partira. Il partira pas à l'heure, mais c'est pas une hypothèse de décider que l'avion partira.
Il y a deux formules qui m'ont toujours beaucoup plu. La première formule, c'est une formule juive de deux rabbins qui parlent l'un à l'autre de Dieu. Et alors ils discutent très savamment de Dieu. Et au fond, ils arrivent à la conviction que Dieu n'existe pas. Et le rabbin, en sortant, dit à l'autre: ce qu'il y a de plus important, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Et la deuxième formule est une formule chrétienne d'un père de l'Église: ma foi est la forme de mon espérance. Je ne sais pas si Dieu existe, mais j'espère qu'il existe.
Ça, c'est une admirable formule. Je vais me faire gronder parce que j'ai dépassé d'un quart d'heure. Et vous aussi, vous allez vous faire engueuler. Ouais. Voilà. Merci, Jean.
Merci, mon cher Jean-Marc.